du soin de l'État pour la sûreté au moyen de la détermination des actes individuels qui touchent autrui d'une manière immédiate et directe, loi civile. Chapitre 11, 2. Et c'est sur les limites de l'action de l'État, par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835, traduit de l'allemand par Henri Chrétien en 1867, les actes qui se rapportent d'une manière directe et immédiate à autrui sont plus compliqués, mais l'étude en est moins difficile que celle des faits qu'on a examinés plus haut. En effet, lorsqu'ils violent un droit, l'État doit naturellement les empêcher et forcer leurs auteurs à réparer le dommage causé. Mais, comme justifié dans les principes précédents, ils violent le droit seulement quand ils dérobent à autrui quelque chose de sa liberté ou de son bien, sans ou contre sa volonté. Si un homme a été lésé par un autre, il a droit à réparation. Mais, dans la communauté, comme il a transféré au pouvoir sa vengeance privée, son droit ne va pas plus loin. L'offenseur est donc obligé, envers l'offensé, seulement à restituer ce qu'il a pris. Ou, quand cela n'est pas possible, à le dédommager. Il doit y consacrer ses biens et ses forces, en tant que l'emploi qu'il en fait peut le mettre à même d'acquérir. La privation de la liberté, par exemple, qui existe chez nous contre le débiteur insolvable, ne peut être appliquée que comme un moyen subordonné, sous peine d'exposer le créancier à perdre, avec la personne de l'obligé, ses acquisitions futures. L'État ne doit refuser à l'offensé aucun moyen pour arriver à se faire dédommager. Mais il doit également empêcher que des sentiments de vengeance contre l'offenseur ne se couvrent de ce prétexte. Il le doit d'autant plus que dans l'État extrasocial, la vindicte elle-même arrêterait l'offensé qui voudrait dépasser les bornes du droit. Dans l'État social, au contraire, la force invincible du pouvoir l'atteint. Il le doit d'autant plus encore que des dispositions générales, toujours nécessaires quand un tiers doit décider, favorisent sans cesse de pareils prétextes. La garantie par l'emprisonnement de la personne des débiteurs, par exemple, pourrait bien exiger plus d'exceptions que n'en établissent sur ce point la plupart des lois. Les actions entreprises en vertu d'une volonté réciproque sont entièrement semblables à celle qu'un seul homme accomplit pour lui-même, sans aucun rapport immédiat avec autrui. Quant à ces actions, je pourrais donc me borner à rappeler ici ce que j'en ai dit plus haut. Toutefois, il en est parmi elles une classe qui requiert des principes entièrement spécifiques. Ce sont celles qui ne s'accomplissent pas en une seule fois, mais qui se prolongent dans l'avenir. À cette catégorie appartiennent les déclarations de volonté, 2. Où découlent des devoirs, parfaits pour ceux qui les ont énoncés, qu'elles soient unilatérales ou synalagmatiques. Elles transfèrent une portion de la propriété appartenant à un homme sur la tête d'un autre homme. Et la sûreté est détruite si le cédant, par l'inaccomplissement de sa promesse, cherche à reprendre la chose cédée. Sanctionner et maintenir les déclarations de volonté, c'est donc là un des plus graves devoirs de l'État. Toutefois, la contrainte qui maintient toute déclaration de volonté n'est juste et salutaire que dans deux cas. D'abord quand elle tombe sur celui-là seul qui l'a exprimée. Ensuite quand celui-ci l'a adoptée librement, avec une capacité de réflexion suffisante, considérée tant en général qu'au moment précis où la volonté a été formulée. Par toutes ces conditions n'existe point, la contrainte est aussi injuste que pernicieuse. Ajoutons que la prévoyance pour l'avenir n'est que très imparfaitement possible. Et, d'un autre côté, il y a beaucoup d'obligations qui enchaînent la liberté jusqu'à devenir un obstacle au développement de l'homme. Nous rencontrons ainsi le second devoir de l'État, qui est de refuser l'appui des lois aux déclarations de volonté illégales et de n'avoir recours qu'à des mesures compatibles avec la sûreté de la propriété, afin d'empêcher que l'irréflexion d'un seul moment n'engage l'homme dans des liens qui entraveraient ou étoufferaient son développement. On trouvera, dans les théories juridiques, l'exposition suffisante des éléments essentiels à la validité d'un contrat ou d'une déclaration de volonté. Au point de vue de l'objet sur lequel elle porte, je dois encore rappeler que l'État, d'après les principes ci-dessus développés, devant s'occuper exclusivement du maintien de la sûreté, ne peut prohiber que les seuls objets qui contrarient les idées générales du droit, ou dont la prohibition est justifiée par le soin pour la sûreté. Sur ce point, voici les seuls cas qui se présentent bien nettement. 1 degré, quand le promettant ne peut donner aucune garantie sans s'abaisser lui-même jusqu'à devenir un moyen au projet d'un autre, comme serait un contrat aboutissant à l'esclavage. 2 degrés, quand la nature de la chose promise est telle que sa prestation échappe à la force du promettant, comme par exemple en matière de sentiment et de foi. 3 degrés, quand la promesse en soi, ou par ses conséquences, est ou tout à fait contraire, ou dangereuse au droit d'autrui. À ces cas, en effet, s'appliquent tous les principes développés plus haut, à l'occasion des actes des hommes considérés isolément. Mais il existe une différence entre ces trois exemples. Dans le premier et le second cas, l'État doit seulement refuser la sanction par les lois. Du reste, il ne doit empêcher ni les déclarations de volonté de cette nature, ni leur exécution, en tant que celle-ci se produit du commun consentement des parties. Dans le dernier cas, au contraire, il peut et doit interdire la simple déclaration de volonté elle-même. Mais supposons que la légitimité d'un contrat ou d'une déclaration de volonté soit incontestable. Dans ce cas, afin de relâcher le lien dont sa libre volonté charge l'homme vis-à-vis d'autrui, l'État pourra cependant, en rendant moins difficile la dissolution du lien formé par le contrat, empêcher que la convention, conclue pour un certain temps, n'enchaîne la libre volonté pendant une trop grande partie de la vie. Quand un contrat ne porte que sur la translation des choses, sans autre rapport personnel, je pense qu'une telle disposition n'est pas opportune. D'une part, il arrive rarement, en effet, que les choses aient une nature, telle qu'elles influent d'une manière durable sur la situation des contractants. La réglementation prohibitive sur ce point attaque d'une façon très fâcheuse la sûreté des affaires. D'autre part, à beaucoup de points de vue, surtout pour développer le jugement et pour favoriser la fermeté du caractère, il est bon que la parole, une fois donnée, l'irrévocablement. On ne doit donc jamais relâcher ce lien en l'absence d'une absolue nécessité. Or, cette nécessité ne se produit point dans la translation des choses, qui peut bien gêner telle ou telle manifestation de l'activité humaine, mais ne peut affaiblir que bien peu l'énergie. Contrairement à cela, dans les contrats qui imposent des prestations personnelles, ou produisent des rapports purement personnels, il en est tout autrement. Le lien alors est préjudiciable aux plus nobles facultés de l'homme. Et, comme le succès des entreprises mêmes, qui en découle, dépend plus ou moins de la persistance de la volonté des parties, une restriction de ce genre est moins dommageable en pareille matière. Ainsi, lorsque le contrat fait naître un rapport personnel qui non seulement impose des actes isolés, mais encore porte sur la personne et la vie entière, dans le sens le plus strict du mot. Quand ce que l'on promet, ou ce à quoi l'on renonce, se rattache étroitement aux sentiments intimes, la dissolution doit en être permise en tout temps, et sans qu'il soit besoin d'en donner tous les motifs. Il en est ainsi pour le mariage. Dans les cas où le rapport est moins étroit, bien que la liberté personnelle soit très fortement diminuée, l'État devrait, à mon avis, fixer un délai dont la durée se déterminerait, d'un côté, suivant l'importance de la restriction, d'un autre côté suivant la nature de l'affaire. Pendant ce délai, aucune des deux parties ne pourrait se rompre le contrat. Mais après qu'il serait expiré, le contrat, s'il n'était renouvelé, ne pourrait entraîner aucune sanction, quand même les parties, en contractant, auraient renoncé à invoquer cette loi. En effet, si l'on venait à penser qu'une pareille disposition n'est qu'un pur bienfait de la loi, et que, pas plus que n'importe quel autre bienfait, On ne doit l'imposer à personne. Il faudrait se rappeler qu'on enlèvera, à qui que ce soit, la faculté de s'engager dans des rapports devant durer autant que la vie. Seulement, on retirera à l'une des parties le droit d'y contraindre l'autre, quand cette contrainte serait un obstacle à l'accomplissement de destinées supérieures. Mais c'est si peu impur bienfait que les exemples présentés, surtout celui du mariage, quand le rapport qu'il crée n'est plus accompagné de la libre volonté, diffère seulement du plus ou moins des cas où un homme se réduit lui-même, ou plutôt se voit contraint par autrui, à n'être qu'un seul moyen pour la satisfaction d'un autre homme. Le droit de fixer la ligne de démarcation entre la sanction qui découle légitimement et celle qui découle illégitimement du contrat ne peut être contesté à l'État, c'est-à-dire à la volonté générale de la société. Car la question de savoir si le lien est d'un contrat de la part de celui qui a aliéné sa libre volonté, le réduit à n'être qu'un moyen aux mains d'autrui, ne peut être décidée avec une exactitude rigoureuse que si l'on considère séparément chaque cas spécial. Enfin, on ne peut pas dire que c'est imposer un bienfait que d'interdire à chacun d'y renoncer à l'avance. Les principes élémentaires du droit enseignent, et on l'a déjà dit expressément, que personne ne peut valablement faire porter son contrat sur la chose d'autrui. L'homme ne peut en général déclarer sa volonté que sur ce qui constitue sa propriété, ses actes, sa possession. Il est encore certain que la part la plus importante du soin de l'État, pour la sûreté des citoyens, en tant que les contrats ou les déclarations de volonté ont sur elle de l'influence, consiste à veiller sur l'observation de ce principe. Cependant, il existe encore plusieurs classes d'actes, pour lesquels on oublie entièrement de l'appliquer. Il en est ainsi dans toutes les dispositions, pour cause de mort, de quelque manière qu'elles se produisent, soit directement ou indirectement, soit seulement à l'occasion d'un contrat, soit dans un contrat, soit dans un testament, ou dans tout autre acte de quelque nature qu'il soit. Un droit ne peut jamais se rattacher directement qu'à la personne. Dans son rapport avec les choses, on ne peut le concevoir qu'autant que ces choses se relient à la personne au moyen des actions. Lorsque la personne cesse d'exister, ce droit s'éteint du même coup. Ainsi, l'homme doit pouvoir, pendant sa vie, faire ce qu'il entend des choses qui lui appartiennent, les aliéner en tout ou en partie, en aliéner la substance, la jouissance ou la possession. Il doit encore pouvoir limiter à son gré, pour l'avenir, ses actions, la faculté de disposer de ses biens. Mais il n'a nullement le droit de décider d'une manière obligatoire, pour autrui comment on devra après sa mort, disposer de son bien, ou comment le possesseur futur devra agir, ou ne pas agir. Je ne m'attarderai point sur les réserves que l'on saurait formuler à propos de ce qui vient d'être énoncé. On a développé assez d'arguments pour et contre à propos de la fameuse question de la validité des testaments, suivant le droit naturel. De toute façon, le point de vue juridique n'a ici qu'une importance secondaire, car on ne peut contester à la société entière le droit d'accorder expressément aux déclarations de dernière volonté la validité qui leur manquerait autrement. Mais si on les considère avec l'extension que leur donne la plupart de nos législations, qui, en cela, ont suivi le système de notre droit commun, où la subtilité des jurisconsultes romains s'unit à l'ambition féodale, destructive de toute société, on voit que les dispositions de dernière volonté entravent la liberté nécessaire au développement de l'homme et combattent tous les principes exposés dans ce chapitre. C'est surtout au moyen de ces dispositions qu'une génération prescrit des lois à une autre génération. C'est par la queruesse des abus et des préjugés, qui disparaîtraient normalement avec les causes qui rendent leur apparition inévitable ou leur existence indispensable, ils se transmettent de siècle en siècle. C'est par là enfin qu'au lieu de donner aux choses leur forme, les hommes sont soumis au joug des choses. Ce sont encore ces actes qui détournent le plus l'attention de l'homme de sa véritable énergie et de son progrès et la dirigent du côté de la possession des objets extérieurs, des biens, qui seuls en effet, peuvent même après la mort, assurer à la volonté du mourant une obéissance forcée. Enfin, la liberté des dispositions de dernière volonté sert le plus souvent, et, pour la plus grande, par directement les passions basses de l'homme, l'orgueil, l'ambition, la vanité, etc. Ainsi, ce sont le plus souvent les hommes les moins sages et les moins justes qui recourent. Le sage se garde bien de disposer pour un temps dont les circonstances particulières échappaient à sa courte vue. L'homme juste, au lieu de rechercher avidement les occasions d'entraver la volonté d'autrui, se réjouit de ne point en trouver. En effet, le secret et la certitude de n'être pas jugé par des contemporains favorisent souvent des dispositions que la honte aurait refoulées. Ces raisons démontrent suffisamment, il me semble, la nécessité d'une garantie au moins contre le danger que les dispositions testamentaires font courir à la liberté des citoyens. Mais si l'État interdit entièrement de prendre des dispositions se rattachant à la mort, comme la rigueur des principes l'exige, que devra-t-on mettre à leur place? Puisque le calme et l'ordre font qu'il est impossible de permettre à tout venant de prendre possession des biens des défunts, on n'aura évidemment qu'une succession ab intesta établie par l'État. D'un autre côté, plusieurs des principes ci-dessus développés défendent de concéder à l'État une action positive aussi puissante que celle qui lui serait attribuée par cette succession légale et par l'anéantissement des déclarations de volonté particulières du défunt. On a déjà observé plus d'une fois la liaison étroite qui existe entre les lois successorales et l'organisation politique des États. Il est certain qu'on peut user de ce moyen pour arriver à d'autres buts également. En général et en tout, la volonté diverse et variable des individus est préférable à la volonté uniforme et immuable de l'État. Aussi, quelques inconvénients que l'on puisse à juste titre reprocher aux dispositions testamentaires, il paraît dur cependant d'arracher à l'homme la joie innocente de penser qu'il sera bienfaisant, même après sa mort, en disposant de son bien au profit de tel ou tel. Si en accordant une grande faveur à cette idée, on attribue trop d'importance aux soins pour les biens, la négliger entièrement pourrait conduire au mal opposé. De la liberté qu'ont les hommes de disposer de leurs biens, comme ils l'entendent, naît entre eux un lien dont, à la vérité, on peut parfois abuser, mais qu'on peut souvent aussi utiliser d'une façon salutaire. Le but où tendent les idées que j'ai exprimées, on peut peut-être le résumer ainsi, c'est de briser toutes les entraves qui gênent la société, et, en même temps, d'unir les hommes entre eux par des liens aussi nombreux que possible. L'homme isolé ne peut pas progresser plus que l'homme enchaîné. Enfin, il y a bien peu de différence entre donner son bien au moment de la mort ou le léguer, par testament, étant donné que le premier de ces actes est pour l'homme un droit incontestable et inaliénable. La contradiction, dans laquelle paraissent tomber les raisons en sens divers qu'on vient d'exposer, disparaît à mon sens, si l'on considère que tout acte de dernière volonté peut contenir de dispositions distinctes, un degré qui devra être le premier et immédiat possesseur du bien laissé. De degré comment celui-ci devra en disposer, à qui il devra à son tour le laisser, comment par la suite ce bien devra être conservé. Et si l'on songe que tous les inconvénients énumérés ne s'appliquent qu'à la seconde, et tous les avantages à la première de ces dispositions. En effet, si les lois, en déterminant une réserve convenable, ont pris soin, comme elles doivent le faire, d'empêcher qu'aucun testateur ne puisse commettre une injustice ou une iniquité, alors je suis convaincu que la pure volonté bienfaisante de donner à quelqu'un après la mort ne peut faire craindre aucun danger particulier. De même, les principes qui guident les hommes en cette matière ont tendance à converger pendant toute période. La fréquence ou la rareté des testaments indique alors au législateur si les lois successorales établies par lui sont toujours convenables ou pas. Ne serait-il pas opportun, par suite, de s'inspirer de la double nature de cet objet et de diviser en deux classes les règles générales que l'État devrait suivre? D'un côté, ne faudrait-il pas obliger chaque homme à dire qui devra après sa mort posséder son bien, sauf la restriction relative à la réserve? Et, d'un autre côté, ne faudrait-il pas lui refuser le droit de décider En quelque manière que ce soit, comment cet héritier devra disposer de ce bien et l'administrer. À la vérité, on pourrait facilement s'emparer de ce que l'État permettrait pour en abuser, s'en servir comme d'un moyen, et faire ce qu'il interdisait. Mais ce serait au législateur à empêcher ces fraudes, par l'exactitude et la précision des termes de la loi. Je citerai, à titre d'exemple seulement, car ce n'est pas ici le lieu de développer cette matière, les dispositions légales en vertu desquelles l'héritier n'a à recevoir aucune condition qu'il devrait accomplir après la mort de son auteur pour être réellement héritier. Celles qui portent que l'auteur ne peut nommer que le premier possesseur de son bien, jamais un possesseur plus éloigné, ce qui lui permettrait d'entraver la liberté du premier. Qu'il peut bien instituer plusieurs héritiers, mais qu'il doit le faire directement. Qu'il peut partager une chose quant à son étendue, mais jamais quant aux droits qui s'y rattachent, par exemple, quant à la nue propriété et à la jouissance, etc. En effet, divers embarras et restrictions à la liberté découlent de ces combinaisons et aussi de cette idée qui s'y rattache, à savoir que l'héritier est au lieu et place de son auteur. Idée qui, comme beaucoup d'autres devenues pour nous d'une importance exorbitante, se base, si je ne me trompe, sur une formalité romaine et sur la défectueuse organisation judiciaire d'un peuple qui commençait seulement à se former. Il sera toujours possible de faire face à ces inconvénients si l'on n'oublie jamais la règle qu'une seule chose doit être permise à l'auteur, nommer souverainement son héritier. Que l'État, quand cette désignation a été faite valablement, doit protéger valablement la possession de cet héritier. Mais qu'il doit refuser son appui à toute déclaration de volonté de l'auteur si elle va plus loin. Dans le cas où il n'existera aucune désignation d'héritier de la part de l'auteur, l'État doit organiser une succession ab intesta. Mais la détermination des principes qui doivent servir de base à cette disposition, comme à la détermination de la réserve, ne fait pas partie de mes intentions. Je puis me contenter d'observer que l'État ne doit avoir non plus en ceci aucun but positif, comme par exemple la conservation de la richesse et de la splendeur des familles. Il ne doit pas tomber dans l'extrême contraire en favorisant la répartition des biens entre un très grand nombre de personnes qui prendraient part ou en proportionnant les parts successorales aux besoins de chaque héritier. Il n'a uniquement qu'à suivre les idées du droit qui se limitent par la seule idée de copropriété antérieure pendant la vie du décujus et admettre d'abord le droit de la famille, puis le droit de la commune, etc. 24, lefcurlibraquette.24, dans tout ceci, j'ai fait beaucoup d'emprunts au discours de Mirabeau, sur ce sujet. J'aurais pu en tirer plus de profit encore si Mirabeau ne s'était pas placé d'un point de vue entièrement étranger à mon plan, du point de vue politique. Voix. Collection complète des travaux de Monsieur Mirabeau l'aîné de l'Assemblée nationale. La question de savoir dans quelle mesure les conventions entre vifs doivent passer aux héritiers se rattache étroitement à la matière des hérédités. On doit chercher la réponse dans le principe qu'on a établi précédemment, à savoir que l'homme peut, comme il l'entend, limiter ses actions ou aliéner son bien pendant sa vie. Mais que pour le temps qui suivra sa mort, il ne peut ni limiter les actions de celui qui alors possédera son bien, ni lui imposer aucune prescription se rattachant à ce point. Car on ne peut autoriser que la simple désignation d'héritier. En conséquence, passe à l'héritier et peuvent être poursuivies contre lui toutes les obligations qui contiennent en elles-mêmes la translation d'une partie de la propriété et qui par suite ont diminué ou augmenté le bien du décujus. Il en sera à l'inverse de toutes celles qui n'ont d'autre objet qu'une action du décujus ou qui se rapportent exclusivement à sa personne. Mais, même avec ces restrictions, il est encore trop aisément possible d'envelopper sa postérité dans des rapports obligatoires au moyen de contrats formés pendant la vie. En effet, on peut aliéner aussi bien des droits que des portions de sa fortune. Une pareille obligation doit nécessairement être obligatoire pour les héritiers, qui ne peuvent acquérir une situation autre que celle de leur auteur. La possession partagée entraîne avec elle une pluralité de droits sur une même chose, et par suite des rapports personnels obligatoires. Aussi est-il, sinon nécessaire, à tout le moins très opportun, que l'État, ou interdise de former de semblables contrats, pour plus longtemps que la durée de la vie, ou au moins facilite les moyens de diviser réellement la propriété lorsqu'un semblable rapport serait formé. De nouveau, ce n'est pas ici le lieu de développer ce point, d'autant plus que, suivant moi, il faudrait procéder non en formulant des principes généraux, mais en statuant séparément sur des contrats déterminés. Moins l'homme est contraint de faire autre chose que ce que sa volonté commande ou ce que sa force lui permet, plus sa situation dans l'état est favorable. Si, en vue de cette vérité, à laquelle tendent toutes les idées contenues dans ce travail, je parcours le champ de notre jurisprudence civile, parmi d'autres objets moins importants, j'en rencontre un bien plus considérable. Je veux parler des associations que, par opposition à la personne physique de l'homme, on a l'habitude d'appeler des personnes morales. Comme elles renferment toujours une unité indépendante du nombre des membres qui les composent, et que cette unité se maintient pendant une longue suite d'années, sans modifications importantes, elles produisent au moins les inconvénients signalés plus haut, comme conséquence des dispositions de dernière volonté, si elles n'en produisent pas d'autres encore. En effet, comme leur caractère nuisible chez nous naît d'une organisation qui n'est pas nécessairement liée à leur nature, notamment des privilèges exclusifs qui leur sont concédés tantôt expressément par l'État, tantôt tacitement par la coutume, et au moyen desquels elles deviennent souvent de véritables corps politiques, elles entraînent toujours avec elles une foule considérable d'embarras. Ceux-ci viennent toujours et uniquement de ce que leur organisation, ou impose à tous les membres, contre leur volonté, tel ou tel emploi des moyens communs, ou bien, en exigeant l'unanimité des voix dans les décisions, permettent à la volonté du plus petit nombre d'enchaîner celle de la majorité. Du reste, bien loin que les sociétés et associations produisent nécessairement des conséquences mauvaises, elles sont l'un des plus sûrs et plus féconds moyens pour produire et accélérer le progrès humain. Ce qu'on doit par-dessus tout attendre de l'État, c'est que les personnes morales ou sociétés ne soient considérées par lui que comme la réunion de tous leurs membres existants, et que, par suite, ces lois ne puissent les empêcher en rien de décider à la majorité ce qu'ils trouvent juste de l'emploi des forces et moyens communs. Seulement, il faut bien prendre garde de ne considérer comme membres que ceux sur lesquels repose vraiment la société, mais non pas ceux dont elle se sert à peu près comme d'instrument. C'est là une confusion qu'on a souvent faite, surtout en ce qui concerne les droits du clergé. Ce qui vient d'être dit justifie, ce me semble, les principes suivants. Quand l'homme ne se renferme pas dans le cercle de ses facultés et de sa propriété, quand il entreprend au contraire des actes qui se rattachent directement à autrui, le soin de la sûreté impose à l'État les devoirs suivants. Un degré, dans ses actions qui sont entreprises, sans ou contre la volonté des autres hommes, il doit empêcher que ceux-ci ne soient troublés dans la jouissance de leurs facultés ou dans la possession de leurs propriétés. En cas d'usurpation, il doit forcer l'offenseur à réparer le dommage causé et empêcher l'offensé d'exercer, sous ce prétexte, ou indépendamment de cela, une vengeance privée. De degré quant aux actes accomplis du libre consentement d'autrui, il ne doit point leur imposer de limites plus étroites que celles qui ont été indiquées précédemment pour les actes des individus isolés, voie chapitre X. 3 degrés, si, parmi les actes susdits, il s'en rencontre quelques-uns, desquels résultent des droits ou obligations entre les parties, déclarations de volonté unilatérale ou synalagmatique, etc. L'État doit garantir la sanction de ces droits, toutes les fois que le consentement a été librement donné par un promettant d'une capacité intellectuelle suffisante, en vue d'un objet dont il peut disposer. Au contraire, l'État ne doit jamais fournir cette sanction toutes les fois où que l'auteur de l'acte ne se trouve pas dans ces conditions réunies, ou qu'un tiers en serait-il légitimement atteint sans ou contre sa volonté. 4 degrés pour ce qui est même des contrats valables, quand ils donnent naissance à des obligations personnelles, ou à des rapports personnels qui restreignent étroitement la liberté, l'État doit en faciliter la dissolution même contre le gré d'une des parties, dans la mesure du préjudice causé par le lien au progrès intérieur de l'homme. Par suite, quand l'accomplissement des obligations n'est de ce rapport est parfaitement jumelé avec les sentiments intimes, il doit la permettre toujours et d'une manière indéterminée. Quand la restriction, bien qu'étroite, ne présente point cette entière concordance avec les sentiments intérieurs, l'État doit faciliter la résolution des contrats, au terme d'une période à déterminer, suivant l'importance de la restriction, et la nature de l'affaire. 5 degrés lorsque quelqu'un veut disposer de son bien, pour le cas de mort, il est, à la vérité, opportun de lui laisser la faculté de nommer son héritier immédiat, sans lui permettre, et en lui défendant, au contraire, de restreindre, par aucune condition, le pouvoir de ce dernier, de disposer du bien à son gré. 6 degrés il est nécessaire d'interdire entièrement toute disposition de cette nature qui passerait ses bornes. Il est nécessaire encore d'établir une hérédité ab intesta et une réserve déterminée. 7 degrés lorsque des contrats passés entre vifs doivent passer aux héritiers ou être réclamés contre eux parce qu'ils modifient le patrimoine laissé, l'État ne doit point favoriser l'extension de cette règle. Il serait même très salutaire, relativement aux contrats séparés, qui produisent un rapport étroit et respectif entre les parties, comme par exemple la division des droits sur une chose entre plusieurs personnes, que l'État ne permette de les former que pour le temps de la vie, ou en rende la dissolution facile à l'héritier de l'une ou de l'autre des parties. En effet, comme ce ne sont plus les mêmes raisons que les précédentes qui règlent les rapports personnels, le consentement des héritiers est moins libre. Et cependant la durée du rapport est d'une longueur indéterminée. Si j'étais arrivé à exposer ces principes, selon mon désir, ils devraient servir de boussole dans tous les cas, où la législation civile doit se préoccuper du maintien de la sûreté. Ainsi, par exemple, je n'ai point rappelé les principes qui régissent les personnes morales. Quand une pareille association naît d'une disposition de dernière volonté ou d'un contrat, il faut la juger d'après les principes qui dominent l'une ou l'autre. Mais l'abondance des cas que renferme la jurisprudence civile fait que je ne puis vraiment pas me flatter d'avoir réussi dans ce dessein. C'était du soin de l'État pour la sûreté au moyen de la détermination des actes individuels qui touchent autrui d'une manière immédiate et directe, loi civile. Fin du chapitre 11.